Les chasses d'oiseaux dites traditionnelles sont interdites. C'est la plus haute juridiction française, le Conseil d'État, qui a tranché cette semaine. Il avait été saisi en urgence par les défenseurs de la nature. Ce dernier a donc cassé les arrêtés gouvernementaux, estimé qu'il risquait de contrevenir au droit européen et notamment à la directive oiseaux. 5 espèces étaient concernées, les vanneaux huppés, les pluviers dorés, les grives, les merles et les alouettes des champs. Max Mercurio, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le président de la Fédération de la chasse dans les Hautes-Alpes et au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tout d'abord, ces chasses dites traditionnelles avec ces 5 espèces qui étaient concernées, ça ne concerne pas directement les Alpes du Sud?
Si. Les Hautes-Alpes, non, mais le reste, il y a des départements de PACA qui sont impactés par ça. Vous avez vu que précédemment, il y avait eu la glu aussi qui a été suspendue.
La chasse à la glu, exactement.
Voilà. Donc en fait, on ressent une grosse colère, bien sûr, de l'amertume et une déception, puisque comme on l'avait dit déjà précédemment, après un deuxième round avec l'aide du gouvernement, le Conseil d'État retoque ses arrêtés. Franchement, on comprend pas. Le président s'était engagé avant son élection de garantir les chasses traditionnelles. Bon, l'impact, alors bien sûr, maintenant il y a l'Europe en plus qui vient nous mettre les bâtons dans les roues, mais bon, de toute façon...
Oui, parce que si on est concret, le gouvernement, lui, avait autorisé justement ces chasses traditionnelles. C'est plutôt la justice qui estime, et qui a été saisie par deux associations, hein, One Voice et la Ligue de protection des oiseaux, c'est la justice qui estime que c'est la France qui ne respecte pas l'Europe, parce qu'au final, le gouvernement... Quand vous dites le président nous avait promis de défendre les chasses traditionnelles, il le fait.
Oui, mais bon, si vous voulez, je pense que depuis quelques mois, il y a un emballement des affaires. Bon, qui est derrière tout ça, il y a bien sûr notre ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui est aux manettes. Donc tout ça, on n'est pas dupes, vous voyez. Donc il y a du politique là derrière.
C'est-à-dire, vous pensez que c'est Barbara Pompili qui pousse à l'interdiction des chasses traditionnelles?
Écoutez, je sais pas, mais de toute façon, si c'est pas elle qui pousse, de toute façon, elle le freine pas. Donc on sait à quoi s'attendre. Donc franchement, on est d'autant plus que les raisons invoquées sont vraiment n'importe quoi. Bon, on ne met aucun enjeu en termes de biodiversité. C'est des petits prélèvements par peu de choses. Ça fait partie de nos traditions rurales. Bon, pour nous, les chasses traditionnelles sont l'essence même de la passion de la chasse, je veux dire. C'est des attaques au symbole là qui se passent.
Attaque au symbole, mais toutefois, il y a quand même un argument qui a été avancé par le Conseil d'État, en tout cas qui a été entendu, c'est de dire en effet, ce sont des petits prélèvements de certaines espèces d'oiseaux, sauf qu'il n'y a absolument aucune distinction dans les techniques de capture.
Oui, mais ça, c'est peu ça, c'est évoqué pour la glu, mais bon, pour le reste, il y a eu des études qui ont été faites, c'est pas ce qui a été retenu dernièrement, quoi. Voilà, donc les associations protectrices gagnent sur ce terrain. C'est pour ça qu'on a beaucoup de colère et d'amertume concernant ces affaires. Voilà, avec tous les enjeux qu'on a de notre société sur le réchauffement climatique et à un acharnement quand même important pour des choses qui font partie de nos traditions. Voilà.
Excusez-moi, Max Mercurio.
Vraiment déçu, vraiment en colère. Voilà.
Max Mercurio, quel est le rapport entre la chasse traditionnelle et le réchauffement climatique?
Non, ce que je veux dire par là, il y aurait beaucoup de choses à faire sur le réchauffement climatique, et on voit qu'il y a des gens qui sont acharnés pour aller contre nos chasses traditionnelles. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de pont vraiment évident, mais. Avec tout le boulot qu'il y a à faire, je comprends pas qu'on s'acharne sur nos petites passions. Voilà.
Alors, justement, les associations écologiques.
Nous étions des gens heureux, la ruralité. Nous sommes toujours des gens heureux. Bon, peut-être que ça gêne certaines personnes citadines, mais nous sommes heureux. Et là, ils sont en train de nous casser nos traditions. Voilà.
Les associations écologistes sont des citadins?
Pardon?
Les associations écologistes sont des citadins?
Non, pas forcément, mais je veux dire, c'est tout cet aéropage un petit peu qui veut le mettre à mal toutes les traditions rurales, voilà. Donc ça existe, hein. Bon, on parle de là du monde cinégétique, mais vous voyez bien qu'au niveau nation, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être remises en cause, quoi.
En tout cas, ce que alors, vous bon. Dites, c'est que on est en train de mettre à mal les traditions rurales, mais que ces chasses d'oiseaux dites traditionnelles ne sont pas forcément nécessaires pour la biodiversité. Parce qu'on le sait, par exemple, chasser le
sanglier. Non, mais elles n'ont aucun impact sur la biodiversité.
Non, mais par exemple, on le sait, chasser le sanglier, c'est important pour éviter certains dégâts des exploitations agricoles, la chasse des oiseaux.
Oui, mais attendez, c'est une passion. On n'est pas là, on n'est pas que des prédateurs, quoi. On n'est pas que des régulateurs des équilibres agro-cinégétiques. Nous, notre rôle, c'est ça. Mais tout à côté, il y a toute une passion, des traditions, etc. Donc, qui touche les oiseaux. Je veux dire, c'est pas. Le problème, c'est de regarder quel est son impact par rapport à la population des oiseaux. Donc là, au niveau européen, on est calé puisque on ne peut prélever que. On doit être inférieur à 0,01% de la mortalité, qui est reconnue, hein, qui est suivie. Donc, on est largement en dessous et on nous attaque quand même. Donc, c'est plus des problèmes dogmatiques qu'autre chose. Que nous, ces chasses-là n'ont aucun impact sur la biodiversité et sur le maintien des oiseaux. Voilà, donc c'est ça qu'on déplore. Voilà, c'est tout.
Alors, justement, les associations écologistes au sortir du Conseil d'État parlaient d'un lobby chasse qui défend un loisir et non une nécessité. Deux questions par rapport à ça. Le terme lobby chasse, c'est quelque chose qui vous convient ? Lobby, c'est un groupe de pression.
Non, parce que je pourrais parler de lobby anti-chasse. Voyez, donc on sait que Monsieur Bougrain-Dubourg est souvent dans les ministères, donc on le sait. Ça, bon, alors bien sûr qu'il y a peut-être un lobby chasse, mais il y a forcément un lobby anti-chasse. Donc là-dessus, je ne vois pas. Qu'est-ce qu'on appelle lobby ? On essaye de défendre nos traditions. Il n'y a pas de lobbying, vous voyez. Franchement, au niveau chasse, quelle est l'importance de prélever quelques alouettes à la tenderie ou au matol? Ça a été démontré qu'on est en dessous, ce que je vous disais tout à l'heure, du seuil de mortalité, des 0,01% des seuils de mortalité des oiseaux. Donc, je veux dire, ça veut dire quoi, le lobby? Effectivement, nous défendons nos passions.
Autre question.
Comme beaucoup d'autres.
Comme beaucoup d'autres domaines,
la société française.
Max Mercurio, les chasseurs ont été mis sur le devant de l'actualité il y a quelques jours de cela par rapport au dossier loup. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir le groupe national loup. Ce sera le 23 novembre prochain. Les exploitants et les syndicats d'exploitants agricoles sont très clairs. Ils demandent à ce que l'on revoie la méthode de comptage de la population lupine. Ils en appellent aux chasseurs en disant, eux, ils savent faire.
Oui, alors, nous, on ne sait pas compter, hein, parce que ceux qui vous disent qu'ils savent compter les animaux sauvages, c'est des mensonges. Suivre que leur évolution, d'accord ? On est incapable de savoir exactement. Quand moi, j'entends dire qu'il y a 540 loups ou 640 loups, c'est impossible de compter, de quantifier, vous voyez, quels que soient les animaux. Donc, on suit leur évolution, c'est-à-dire que ce qu'on fait pour les grands ongulés, c'est que systématiquement, toutes les années, nous faisons des suivis, des repères, etc., systématiques et plusieurs fois, ce qui nous permet, c'est des protocoles scientifiques, hein, qui nous permet de voir si ça évolue à la hausse, à la baisse ou la tendance est stable. Donc, quand on me dit qu'on sait compter les loups, c'est faux, c'est impossible.
En tout cas, vous pouvez suivre l'évolution lupine.
Voilà, ce qu'on peut faire, c'est à travers des caractères objectifs et partagés avec les associations, etc., on peut se dire que les impacts augmentent, baissent ou sont stables. D'accord ? Voilà, c'est ça. Alors, nous, on a une grosse expérience en la matière, mais on ne saura pas compter le nombre de loups, c'est impossible.
Mais en tout cas, vous êtes favorable à cet appel des exploitants agricoles de dire, est-ce que vous pourriez en tout cas aider à estimer la population lupine en France ?
Alors, bien sûr, puisque la lettre, vous faites allusion à une lettre qui a été rédigée conjointement avec nos amis éleveurs et la Fédération nationale. Hein.
Oui.
Donc, bien sûr. Mais il y a, dans cette lettre qui a été écrite au préfet coordinateur, il y a beaucoup d'autres choses. Hein. En particulier, dans le plan loup, on ne tient pas compte de l'impact du loup sur les animaux sauvages.
Alors justement,
donc à aucun moment.
L'impact des... On le sait, c'est quand même étroitement lié, un impact du loup sur les animaux sauvages et sur la prédation ensuite, parce que quand il n'y a plus d'animaux sauvages, forcément, le loup va se rabattre sur les exploitations.
Oui, absolument, ça va augmenter le potentiel d'attaque, mais je veux dire par là que nous, on a constaté déjà, hein, donc on va sortir une étude qui a été faite par un cabinet extérieur hein, au niveau national, où on va sortir les évolutions de la population de sauvage. Hein,
vous avez déjà certains chiffres, notamment en région PACA?
Au niveau PACA, par exemple, le mouflon, il a été divisé par 10, quoi. Voilà, en gros. Hein.
Depuis quand?
Ça fait 20 ans, une dizaine d'années, quoi. 15 ans, une quinzaine d'années. Bon, j'ai pas les chiffres exacts, là, mais le moment venu, on les communiquera. On sait que le mouflon est très, très, très impacté par le loup. Il y a le chevreuil aussi, enfin, il y a toute une série de chiffres qui vont sortir pour voir l'impact du loup sur la faune sauvage. Bon, donc, il y en a qui s'en félicitent peut-être, mais bon, voilà, et ça, c'est jamais pris en compte.
En tout cas, les chasseurs sont prêts, en tout cas, à épauler les exploitants.
Ah, tout à fait. Alors là, tout à fait. Et c'est pour ça que nous ne voulons plus, dans les conditions actuelles, et ils le comprennent très bien, les aider à protéger les troupeaux, puisqu'en fait, on nous donne pas les moyens, hein. On peut pas avoir de visée nocturne, on peut pas avoir. Donc ça veut dire qu'on s'épuise et sans grande efficacité, quoi. Voilà.
Merci beaucoup Max Mercureux d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération régionale et alpine de la chasse. Merci beaucoup.